Merci de rester avec nous dans Au cœur de l'islam.
Nous allons faire des émissions en direct.
Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin.
Et par extension, wa muslima.
Est-ce qu'il faudra tirer ces références des savants de sa région ?
Nous sommes tenus d'être musulmans et non d'être des malékites. La connaissance est celle des anciens. Mimouna ta'arf Rabbi, Rabbi ya'arf Mimouna, Mimouna kent jahad. Mimouna n'était pas une traître.
Il est considéré comme le guide des musulmans, ce qui inclut le dernier monothéisme.
Vous avez des coranistes, c'est une secte. Vous avez les hadathiyin, les modernistes, qui visent à annuler tout ce corpus que nous appelons sunna mutahara sahiha. Le vrai croyant s'occupe de sa foi, le mauvais s'occupe de celle des autres.
C'est notre propos du Alger Chien 3 depuis que l'on a commencé à disserter autour de tous les éléments qui constituent une bonne base pour la pratique claire et correcte de l'islam. Au cœur de l'islam, c'est tous les vendredis à 5h et à 14h sur Alger Chien 3 et sur la page x.com. Au cœur de l'islam, Chien 3.
Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamashekat et Bouchra Yahya.
Madame, Monsieur, bonjour, Salam Azoul, bienvenue à vous sur les ondes positives de Radio Alger Chien 3 et sur lesquelles nous embarquons tous les vendredis à 5h et à 14h pour parler de ce qui permet de faire de nous des humains en progression, partant du hadith du prophète alayhi salatu wasalam, innama bu'itu li utammima makarim al-akhlaq. Al-akhlaq, ou ces mêmes valeurs qui font la différence entre une bête de somme et cet être haut, tellement faible, pauvre et imparfait, mais dont Dieu a choisi d'en faire son vicaire sur terre. Et pour cette raison, pour cette mission, nous partageons avec vous des séquences riches en apprentissage, en revalorisation de soi et même en reset. Et grâce à Dieu et grâce à vous et à vos commentaires, nous affinons et nous ciblons mieux notre objectif. Et vous êtes nombreux d'ailleurs à réagir sur x.com, sur la page Au cœur de l'islam, Chien 3. Merci donc de nous permettre de grandir ensemble et merci de vos retours tellement pertinents et encourageants. Salam alaikum Kamal Shekat.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kamal Shekat, dans le livre Le sentiment de foi, le directeur de l'édition, Mohamed Abdou, a écrit dans le préambule, je le cite, « La vigueur de ce sentiment rend tout sacrifice supportable, tandis que toute défaillance de ce sentiment pousse les uns et les autres à être de plus en plus égoïstes et avares. Mais hélas, le mode de vie individualiste de la civilisation matérialiste favorisant l'égoïsme a fini par avoir raison. » Des bons sentiments de foi, ce qui a eu pour conséquence directe l'émergence d'une atmosphère d'iniquité incompatible avec tout bon sentiment de foi. Cette carence de sentiments se manifeste par le peu d'égards accordés aux cultes, oui, qui sont exécutés sans grande attention, la rareté des gens pieux qui implorent leur Seigneur, les larmes aux yeux, cette carence apparente qui n'augure rien de bon. Est-ce que nous sommes dans cette résultante Kamal Shekat aujourd'hui?
J'espère.
Est-ce que nous avons perdu la foi?
Oui, bon, de manière générale, on peut facilement confirmer les propos de Mohamed Abdou que vous venez de citer. Mais moi, j'aimerais revenir avec vous sur ce qui devrait être pour nous musulmans une leçon, puisée même de l'histoire, d'une histoire qui plus est narrée par le Coran. Banu Israël. Quand Moïse, alayhi salam, est venu en tant que délivreur, que sauveur, ils ont vécu avec lui, ils ont quitté l'Égypte avec lui, ils ont vu se dérouler sous leurs yeux des ruptures de l'habitude que nous appelons mu'jizat. En dépit de tout cela, à chaque fois qu'un commandement leur venait, ils trouvaient matière à négocier. Ceci nous est rapporté dans l'histoire même de la génisse, sourate al-Baqara. Normalement, des gens qui ont la foi, qui connaissent la personne à qui ils ont affaire et qui est messager de Dieu, porteur d'un message divin. Normalement, ils auraient dû s'exécuter illico presto. Ils ne l'ont pas fait, ils ont commencé à négocier. Ceci a conduit les Hébreux à devenir une nation qui croit en une partie du livre et qui rejette une autre. Chose qui a été dénoncée par Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, nous avons chez les musulmans maintenant une catégorie qui passe son temps à négocier. Pourquoi est-ce interdit? Sommes-nous sûrs que la chose nous soit véritablement interdite? Vous posez une question qui suppose que ce que vous avez dans le Coran peut être faux ou falsifié ou je ne sais quoi. Non, ben on n'ira pas jusque-là, mais quand même, il y a matière à se poser des questions. Et puis vous avez des gens qui vont vous donner des explications, qui vont tenter d'expliquer leur attitude en vous disant « Oui, mais attendez, peut-être que cela était interdit à l'époque même de la révélation, mais si le prophète avait vécu plus longtemps, ce serait devenu licite. » Mais jusqu'à preuve du contraire, l'interdiction est maintenue dans le livre de Dieu. On vous dit « Oui ». Et dans ce cas, ben, on va maintenir la chose interdite. On pose des questions. On jette des pavés dans la mare, comme ça. Par moment, vous savez, vous êtes face à une multitude d'interrogations auxquelles ça ne vaut même pas la peine d'apporter des réponses. Cet islam que vous avez entre les mains, qu'est-ce que vous voulez en faire? Est-ce que vous voulez bâtir une société avec un projet de vie, avec quelque chose qui rayonne, avec quelque chose qui enrichit l'humain? Ou est-ce que vous voulez en faire une mélasse, un bouillon de culture dans lequel vous allez vous battre, vous entretuer, vous dénigrer les uns les autres, vous minimiser les uns les autres, vous vous jetez mutuellement le discrédit? Il est là le problème. Et c'est pourquoi, quand vous me parlez, moi, de la foi ou de ce que je vois au quotidien, les mosquées qui étaient des lieux de quiétude, de sérénité, ne le sont plus. Parce que quand vous entrez dans une mosquée, vous avez 10 000 savants en circulation qui gravitent et chacun veut imposer un islam qui est le sien. Chacun veut légitimer ses actions, son comportement par ce qu'il veut mettre en évidence comme étant l'islam tel qu'il devrait se pratiquer. Alors que normalement, vous entrez dans une mosquée, vous êtes dans la maison de Dieu. Vous êtes l'invité de Dieu, vous devez vous comporter selon ce qui est admis et accepté ou bien ce qui est autorisé par votre hôte et non par vous-même. Nous ne sommes pas dans cette logique. Et puis, quand on parle de science, les compagnons du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, faisaient en sorte d'acquérir l'éthique avant la science. L'adabu qabla l'ilm. Et tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils faisaient ou tout ce qui faisait leur science ne constituait que 30% en termes de comportement, en termes de vision par rapport à l'éthique qui les animait. Ce qui est le contraire de ce que nous sommes en train de faire.
Donc il y va du bon accomplissement du culte.
Absolument.
On a quelqu'un comme le Maoudoudi qui dit « Il est de votre devoir d'avoir dans votre cœur un feu ardent qui, dans son ardeur, Chala. Ressemble au minimum au feu de l'un de vous quand il trouve son enfant malade et ne s'apaise que si le médecin l'ausculte. Ce feu devrait aussi être au même niveau que ce feu qui le consume quand il ne trouve rien pour calmer la faim de ses enfants et ne s'arrête d'être préoccupé et de fournir effort après effort jusqu'à trouver de la nourriture. » Ce feu s'est éteint.
C'est quand nous parlons de certains de nos maîtres, nous disons qu'Ana yahmilu hamma ad-da'wa. Il avait en lui justement ce feu ardent qui faisait qu'il voulait à tout prix transmettre le message dans sa version la plus fiable, la plus sincère, la plus authentique. C'est vrai, c'est ce qui devrait nous animer.
Quel est notre but en pratiquant cette foi?
Plaire à Dieu, tout simplement. Plaire à Dieu. Si vous visez justement cela, vous ne pouvez que réussir.
Bienvenue à vous dans Au cœur de l'islam, une émission diffusée tous les vendredis à 5h et à 14h sur les ondes positives de la radio algérienne, Radio Alger Chaîne 3. Au cœur de l'islam, un programme où l'on revient à chaque fois sur les fondamentaux, sur le sens des choses, le pourquoi, le comment et les objectifs à atteindre à travers tel ou tel acte. Et lorsqu'il s'agit de religion, forcément, on insiste beaucoup plus sur l'intention et le spirituel, attrait qui manque terriblement à notre monde aujourd'hui, à notre humanité en déperdition ou en folie. Donc, tout l'intérêt est d'arriver en fin de parcours avec un goût de sérénité et de mission accomplie. Et comme disait notre grand soufi enterré à Tlemcen, Abou Madian Shouaib, « Umruka nafsun wahidun fahris an yakuna laka ». La alayka.
Oui, absolument, que cette vie plaide pour vous et non contre vous le jour du jugement dernier, en termes d'actes, de comportement. Et puis, il y a d'autres citations qui vont dans ce sens, qui sont peut-être un peu plus poussées, un peu plus élaborées, où il est question de faire en sorte que votre vie perdure ou continue après votre mise en terre. Et ça, c'est le propre des gens vertueux, de ceux qui laissent après eux un patrimoine immatériel.
كما شكت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. كما شكت tout acte culturel est voué à Dieu سبحانه.
Oui.
Qui sert-elle cette salat? Quelle est sa finalité et qui sert-elle plus?
Elle sert beaucoup plus l'humain parce qu'elle est
celui qui l'accomplit.
Oui, elle est censée lui assurer ou lui apporter le salut le jour de la résurrection. Nous partons du principe que Dieu se suffit à lui-même et donc à partir de là, il n'a pas besoin que nous lui rendions un culte. Sauf que ce culte, il nous l'a imposé.
Pourquoi ?
Il nous l'a imposé parce qu'il nous a créés, parce qu'il nous a comblés de bienfaits, parce qu'il est le maître absolu, parce qu'il est le créateur. Et à partir de là, il a exigé de nous, du fait que nous soyons déjà vivants, que nous lui rendions un culte. Pour le remercier de tout cela. C'est une épreuve. Ce sont des questions d'ordre philosophique. Mais voilà, maintenant, quand on dit « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar », ce fameux verset de Sourate Al-Ankabut, où Dieu dit « Utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimi salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, wa la dhikrullahi akbaru wallahu ya'lamu ma tsna'oun » Donc récite ce qui t'est révélé du livre et accompli la prière, en vérité la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand et Allah sait ce que vous faites. La prière préserve de la turpitude et du blâmable. Le fait d'accomplir la prière, de la manière dont nous l'accomplissons, avec ses différentes positions rituelles, tout cela a tendance à vous mettre en symbiose avec le cosmos, avec ce qui vous entoure. Il est question d'interagir avec des ondes telluriques, des ondes cosmiques. Le fait de faire ses ablutions avant la prière, cette prédisposition mentale déjà au culte, et que la chose se fasse avec de l'eau où vous allez récupérer toutes les pertes hydriques que votre corps a subies pendant la journée, vous faites ça 5 fois par jour. S'il n'y a pas d'eau, vous n'allez pas procéder à des ablutions sèches qui vont fatalement, forcément avoir un impact sur votre organisme. Donc le fait déjà d'être dans ce type de position, dans ce rituel, nous le savons actuellement via les neurosciences que ça a un impact bénéfique sur le corps. Ça favorise la sécrétion d'un certain nombre d'hormones, notamment la sérotonine. Nous savons que ces actes de la prière vont enclencher ou déclencher chez vous un certain nombre de variations chimiques au niveau même du cerveau, qui sont très très bénéfiques. Ensuite, si vous prenez en considération l'aspect social même du verset, « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar », ceci fera de vous un bon citoyen, quelqu'un qui ne peut en aucun cas être un vecteur du mal, autant pour ses co-religionnaires que pour ceux qui ne partagent pas sa vision, normalement. Et donc, je me dis par moments que même si je partais du principe qu'il n'y avait pas de créateur, même si Dieu n'existait pas, et que l'être humain se trouverait dans cette logique de la prière qui deviendrait à ce moment-là, c'est-à-dire si Dieu n'existait pas. Donc cette prière deviendrait une sorte de gymnastique, un sport quotidien auquel se livrerait tout le monde. Si les gens prenaient vraiment conscience de ce que pourrait leur apporter ce sport, entre guillemets, l'humanité ne pourrait qu'aller bien. Maintenant, moi, je suis dans une autre logique, qui est la logique créationniste, c'est-à-dire que je pars du principe que je suis face à une obligation religieuse, à quelque chose qui m'a été imposé par une intelligence suprême que j'appelle Dieu, un créateur qui me demande de lui rendre au quotidien ce culte. Là, normalement, je devrais me plier à une charte qui me lie à Dieu et qui va avoir des répercussions sur ce que je partage comme vie avec toutes les autres personnes qui m'entourent, que ces personnes soient croyantes ou incroyantes. La chose, normalement, ne devrait qu'être bénéfique. Et si nous sommes aussi donc dans une logique qui vise à apporter un bien autant à soi-même qu'aux autres, quelles devraient être les finalités de cette prière pour le groupe qui constitue on va dire l'entourage immédiat qui est le nôtre? Comment expliquer qu'autour d'une mosquée il y ait autant de saleté, de déchets, de détritus? Comment expliquer cela? J'ai eu l'occasion de vérifier cela par moi-même. Vous passez par un quartier chrétien, c'est propre. Vous passez par un quartier musulman, c'est sale. Vous êtes à New York. Vous passez par un quartier chinois, c'est propre. Vous arrivez au quartier musulman, vous avez les saletés dans la rue. Comme ça, c'est terrible. C'est une réalité, malheureusement, ouais. Que vous le vouliez ou non. Donc, soyons sérieux. Il y a un problème, qu'on le veuille ou non. Et puis, la prière en elle-même, par quoi vous allez commencer la prière? Quelle est la première prédisposition à la prière? C'est la pureté rituelle.
Exactement.
Alors, comment expliquer que nous soyons dans cet état de fait? Comment l'expliquer? Je suis d'accord, entièrement d'accord avec ceux qui partent du principe que bon nombre des maux dont souffre l'Algérie est dû à la colonisation, mais jusqu'à un certain stade. Faut pas pousser le bouchon plus loin.
Dieu subhanahu, dans le Coran, dans la sourate Al-Hajj, nous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi samawati wa man fi al-ardi wa al-shamsu wa al-qamru wa al-nujumu wa al-jibalu wa al-shajaru wa al-dawabu wa kathirun min al-nasi wa kathirun haqqa alayhi al-adabu wa man yuhni Allahu fa ma lahu min mukrimin inna Allah yaf'alu ma yasha. Un office qui est mentionné plus de 60 fois.
Quand on devient musalli, un prieur, quelqu'un qui est assidu à la prière, il y a un certain nombre de paramètres qu'on va devoir intégrer dans son quotidien qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Il y a la ponctualité. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Ça veut dire que cette prière, vous allez devoir l'accomplir à des moments bien déterminés. Et pour bien l'accomplir, il va falloir aussi être bien préparé. Nous venons de parler de pureté rituelle, donc de propreté, le béaba de ce qui devrait être fait. Ensuite, cette prière, que vous la fassiez seule ou bien en groupe, en congrégation, salat al-jama'a, ça va aussi avoir ou ça va aussi vous entraîner un certain nombre de prédispositions. Et donc, c'est un tout, c'est une institution. C'est pas quelque chose de banal. Ça ne devrait en aucun cas être quelque chose de banal. Nous, par moment, il y a l'adhan, vous allez faire vos ablutions de manière machinale, vous allez faire votre prière de manière tout aussi machinale. Et le problème, c'est qu'à la fin, vous êtes satisfaite. Et ça, c'est un problème. C'est vraiment un problème parce que ça me rappelle, si je ne m'abuse, c'est Abdullah ibn Mas'ud qui est passé par des gens qui étaient en train de discuter, et il a dit Madat fa'alun qalu na'uddu hasanatina. Nous sommes en train de comptabiliser nos bonnes actions. Un tel a dit Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 100 fois. L'autre a dit telle ou telle chose, a prononcé telle formule pendant 200 fois, etc. Et on compte les nombres de bonnes actions. Un tel a récité tant de versets du Coran avec 10 bonnes actions pour chaque lettre, etc. Et il a dit la ta'uddu hasanatikum walakin uddu sayiatikum. Faites le compte plutôt de vos mauvaises actions pour essayer de récupérer la chose. La prière que nous faisons 5 fois par jour, pourquoi la faisons-nous 5 fois par jour? Elle se fait à des mouvements bien peu, quand je dis des mouvements du soleil bien précis, c'est-à-dire à des stations ou des moments de la journée qui indiquent une position du soleil qui est distincte par rapport aux autres moments. Et nous avons ce fameux hadith qui nous dit les 5 prières, c'est-à-dire d'une prière à l'autre, d'un vendredi à l'autre, d'un ramadan à l'autre, ce sont là autant de stations où Dieu absout les croyants de certaines de leurs fautes. Donc le fait d'être dans cette prière de manière continue, normalement, est une manière de se remettre en cause. D'essayer d'opérer un retour vers Dieu. J'ai fait la prière du matin, il y a Salat al-Dhuhr qui arrive, j'ai un autre rendez-vous avec Dieu. Qu'ai-je fait depuis la première prière jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a un repentir que je dois opérer, si par mégarde ou par manquement, par faiblesse, j'ai commis un impair? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois rectifier? Et ça marche comme ça, c'est-à-dire que cette prière devrait maintenir nos consciences éveillées à tout moment de la journée et de la nuit. Est-ce que nous sommes dans cette logique?
Comme le chakat du subhanahu dans le Coran, dans la sourate Maryam, verset 59, nous dit « فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَضَعُوا الصَّلَاةَ وَتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا »
Ça veut dire que quand on s'inscrit ou quand nos actes s'inscrivent dans un contrat social qui est celui que Dieu veut, c'est-à-dire l'amr bil ma'ruf, c'est-à-dire celui qui est basé sur le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, l'amr bil ma'ruf ou nahy anil munkar de manière générale, là nous sommes dans ce qui est souhaité par Dieu. Et à partir de là, nous sommes normalement dans l'obligation de faire en sorte qu'il y ait une transmission à travers les générations quant à l'observance justement de ces principes. Ce qui rejoint le sourate al-Asr. Wal-Asr inna l'insana lafi khusr. Donc nous sommes tous dans une perte évidente. Illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru, wa amilu salihat, ont fait les bonnes œuvres. Ce qui signifie que la foi ne se résume pas en un certain nombre de croyances uniquement, mais c'est quelque chose aussi qui devrait être traduit par des actes, par un comportement. وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ. C'est-à-dire que là, nous sommes tous d'accord qu'il faut faire preuve de foi et de bon comportement. Ensuite, on va devoir se transmettre cette vérité et on va devoir aussi se transmettre de génération en génération le fait d'être patient sur l'observance même de cette réalité. Parce qu'il n'est pas facile d'être toujours à la hauteur, à la hauteur de ce qui est voulu de chacun d'entre nous par Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc le verset vous parle de gens qui se sont laissés aller jusqu'à perdre justement de vue cette réalité. Et à partir de là, il va y avoir de la déviation.
Kamal Shekat, Haifa Younes, qui fait un tabac sur les réseaux sociaux. Elle parle autant en arabe qu'en anglais. Alors, je l'ai vu récemment, elle faisait une exégèse de 2 versets. Celui que je viens de citer de la sourate Maryam. Oui. Et l'autre de la sourate Al-Araf, verset 169, où Dieu dit « فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُدُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَيَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُدُهُ. Alors, selon elle, c'est cette espérance justement que Dieu nous pardonne et absout nos péchés
qui nous poussent à mal agir ou à nous laisser aller,
à manquer de bonnes intentions.
Écoutez, je crois que c'est Hassan al-Basri qui a dit, en parlant de l'insouciance, le ghafla, لولا الغفلة لما أقيمت الأسواق ولما مشى الناس في الطرقات. N'eût été l'insouciance, il n'y aurait pas eu de marché, donc pas de vie mondaine, et les gens n'auraient pas bâti des villes. Parce que quand vous dites la même chaîne Nasoufi Torokat, le fait de construire des routes signifie que vous êtes dans un tissage urbain qui fait que vous avez construit une ville, donc construit une société, une vie qui va accompagner cette société. L'insouciance, c'est un cadeau de Dieu, en fait. Oui. Parce que, imaginons que nous soyons tous obnubilés par le jugement dernier et tout ce qui s'y rapporte. Ahwal yom al-qiyama, l'enfer, la tourmente, etc. Est-ce que le fait d'être vraiment branché sur cela vous permet de vivre ou de mener une vie normale? Non. Et c'est donc à partir de là
Mais
que l'on prend conscience.
Mais pourquoi les compagnons du prophète, alayhi salatu wasalam, étaient conscients de toutes ces choses, mais
ils étaient
presque parfaits?
Non, non, ils étaient conscients de toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, une fois, il est revenu, après avoir passé un certain moment avec le messager de Dieu, alayhi salatu wasalam, il a décidé d'aller vers le messager de Dieu, il rencontre Abu Bakr et il lui dit, qu'est-ce qui te turlupine, Handala. Il dit nafaqa Handala. Handala est devenu hypocrite. Alors quand nous sommes avec le messager de Dieu, alayhi salatu salam, il nous parle du paradis et de l'enfer comme si nous les voyions. Et dès qu'on le quitte, on a vite fait de vaquer à ses observations, d'être happé par les affres du quotidien, à telle enseigne que nous oublions tout. Donc pour lui, c'était de l'hypocrisie. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu wa ma adrakum min Abu Bakr lui dit, je suis en train de vivre la même chose. Ils vont vers le messager de Dieu alayhi salatu salam comme s'ils étaient allés vers lui pour se plaindre justement de ce manquement, ce qu'ils voyaient en eux comme étant un manquement. Et là, le messager de Dieu alayhi salatu salam a été un peu plus clair. Si vous restiez dans l'état dans lequel vous êtes, quand vous êtes en ma compagnie, les anges vous serreraient la main assurément dans les rues, c'est-à-dire que vous allez vraiment sortir de cette dimension terrestre pour vous retrouver dans une dimension de fou, entre guillemets. Vous imaginez que vous puissiez avoir la possibilité de changer de dimension comme ça. Ça n'est pas possible. Et donc il a dit non, walakin sa'atan fa sa'a. Une heure pour le monde d'ici-bas, une heure pour l'au-delà. Nous, dans notre quotidien, est-ce que nous avons ne serait-ce que quelques minutes comme ça pour l'au-delà? Des 5, 10, 15, 20 minutes qui nous permettent de tempérer un peu les choses, de rééquilibrer la chose, de sorte à ce que la pleine présence que nous opérons dans le monde d'ici-bas nous serve à quelque chose.
Ça, c'est ce qui est dit dans la sourate Al-A'raf, « Sayughfaru lana kama shakat ».
Nous l'espérons bien. J'espère bien faire partie des gens du salut le jour de la résurrection. Et j'ai bon espoir parce que je suis dans ce que nous appelons « husnul dhanni billah ». Nous avons bonne opinion de Dieu. Nous pensons, nous avons ce fameux hadith du messager de Dieu, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Si le croyant savait ce qu'il y a auprès de Dieu comme tourmente, comme punition, nul n'espérerait quoi que ce soit de sa miséricorde et de son indulgence. Et si le mécréant savait ce que Dieu détient auprès de lui en termes de miséricorde, nul n'aurait peur de son châtiment. Donc nous sommes des gens, nous sommes des petits musulmans qui croyons en Dieu, qui avons bon espoir quant à sa miséricorde, son indulgence et sa clémence, tant mieux. Mais est-ce que cela nous donne-t-il le droit de nous laisser aller jusqu'à nous mettre en infraction vis-à-vis de Dieu? Parce que là, malheureusement, et toutes les conditions sont réunies pour le dire, dans bon nombre de nos actes, nous sommes en infraction vis-à-vis de Dieu, quand bien même la chose paraîtrait autre.
Oui, mais le fait de ne compter que sur la miséricorde divine, est-ce que ça suffit, Kemal Shekhat?
Ça ne suffit pas. C'est pour cela que qu'à chaque fois que cette miséricorde est citée, le fait que Dieu soit dur en punition est cité aussi. Inna Allah la ghafurun rahim. Wa innahu la shadidul iqab.
Quel bonheur d'être en votre compagnie en cette journée bénie du vendredi. Nous sommes bien sûr dans Au cœur de l'Islam, diffusé sur les ondes de la radio algérienne. Nous sommes ensemble aussi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à faire un tour sur x.com sur la page Au cœur de l'Islam, chaîne 3. Alors, deuxième numéro sur la prière, une thématique sur laquelle Kamal Chekat établit une relation directe avec ce qui s'est passé au 11e siècle du temps de Abu Hamid al-Ghazali, décédé en 1111. Et là, nous sommes plein pied dans les représentations que l'on se fait des prieurs et des adeptes de la salate à travers le monde. La salate est l'image que donnent ces musulmans d'aujourd'hui. Alors, lequel est meilleur? Celui qui ne fait pas la salate ou celui qui a tous les torts mais qui est à chaque moment de la salate, à chaque fois qu'il est dit Hayya ala salat, il est là-bas, il pointe à la mosquée?
Beaucoup de gens vous diront, justement, moi je ne fais pas de la prière, mais je ne fais de mal à personne. La question, c'est une question sur laquelle sont revenus bon nombre de grands noms de la théologie musulmane, au premier siècle déjà de l'islam.
Déjà,
on s'est posé cette question. La différence, et puis la comparaison s'est faite entre Iblis et Adam. Iblis faisait partie d'une élite qui se trouvait dans la cour céleste. Quand Dieu vous dit... Bien sûr, il s'adressait aux anges, mais parmi les anges, il y avait un démon, qui était Iblis. Dans Sourate Al-Kahf, sajadu, illa Iblis kana min al-jinn fafasaqa an amri rabbih. Il y a des gens qui, au lieu d'essayer de tirer un enseignement de ce que dit le Coran, vont aller dans les détails, ces détails vers lesquels va le diable, justement. Parce que le diable se trouve dans les détails, justement. Alors, quelqu'un comme Taha Hassin va vous dire, oui, Iblis était un ange. Et pour preuve, il est dit, « وَيْتْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ » Mais il omet de citer l'autre verset qui donne un autre détail, qui est celui de Sourate Al-Kahf, « إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ » Donc il vous dira, oui, et il va justement vous diluer dans des interrogations qui n'ont ni queue ni tête, qui n'ont aucun sens, qui ne peuvent rien vous apporter de bon. Les savants se sont posés donc cette question. Iblis est une entité qui avait beaucoup de savoir et qui faisait partie des gens vertueux. Il a refusé de se plier à un ordre de Dieu, par orgueil. Ça lui a valu d'être damné jusqu'à la fin des temps. Adam était une personnalité vertueuse. Elle a toujours été obéissante à Dieu. Elle a fait un manquement par faiblesse. Ça lui a valu l'absolution de Dieu du fait qu'il s'était repenti, tout simplement. Donc vous avez quelqu'un qui est dans l'obéissance mais qui a fait une erreur. Vous avez un autre qui est censé être vraiment au top des tops mais qui a refusé d'aller vers Dieu via l'observance d'un ordre divin, d'une obligation. Beaucoup ont conclu que finalement, ceux qui ne vont pas vers Dieu sont ceux qui ont décidé de ne pas aller vers Dieu. Et dans la majorité des cas, il y a une forme d'orgueil qui est à la base de ce refus d'aller vers Dieu.
D'orgueil, d'arrogance.
D'arrogance. Quand quelqu'un vous dit « moi je suis meilleur que ces gens-là, moi je ne vais pas dans les mosquées, moi je ne fais pas de prière parce que je suis meilleur qu'eux, eux ils passent leur temps à faire du mal, moi je ne fais pas de mal ». Cette personne-là n'est-elle pas dans une forme d'orgueil qui a inhibé son désir d'aller vers Dieu? Il est là le problème. Donc, nous, généralement, quand ce type de question nous est posée, la première chose qu'il nous faut faire, c'est de ne pas nous prendre pour Dieu. Ça, c'est la première chose. Maintenant, les questions peuvent connaître d'autres variantes. On vient vous dire, par exemple, je connais quelqu'un qui consomme de l'alcool, tout ce qui peut enivrer, tout ce qui peut causer une absence de conscience ponctuelle ou d'une durée quand même assez conséquente, est interdit. Comme par exemple le fait de se retrouver ivre. Tout cela est interdit en islam et nous savons que la conscience, l'aql, est une condition sine qua non de validité de tout acte cultuel. Parce que si vous avez une perte de raison, vous n'êtes en rien redevable à Dieu. Le fou n'est pas redevable de quelque culte que ce soit vis-à-vis de Dieu.
Pourquoi? La responsabilité est annulée. N'est pas,
oui, la responsabilité est annulée. إِذَا سَلَبَ اللَّهُ مَا وَهَبْ أَسْقَطَ مَا أَوْجَبْ. Moi, à plusieurs reprises, on m'a posé cette question. Je connais quelqu'un qui fait sa prière. Il est même assidu à la prière, mais qui, vous savez, après l'Aïcha, il va consommer un petit verre d'alcool et par moment même entre les prières, il le fait. Est-ce que sa prière est valable ou pas? Généralement, je dis, je ne sais pas si elle est valable ou pas. C'est à Dieu seul d'apprécier ce qui a été fait par cette personne. Mais je sais que cela est interdit. Normalement, on n'a pas le droit de faire ça. Mais est-ce que cela peut me donner le droit de dire à cette personne, non, tant que tu es dans cette logique, il vaut mieux ne pas faire de prière. Je ne peux pas le faire. Quand on a à répondre à ce type de questions, qu'est-ce qui vaut le mieux pour l'être humain? D'être en rapport avec Dieu, mais que ce rapport soit bafoué par un certain nombre de manquements, comme ceux que nous venons de citer, ou bien d'être vraiment en super bon rapport avec tout le monde, d'être vraiment à la hauteur de l'humanité qui devrait animer chacun d'entre nous, sauf que il n'y a pas de relation avec Dieu, ni à travers la prière, ni à travers un autre culte, quel qu'il soit. Je reste dans la logique des savants de l'islam. On va dire, il vaut mieux observer, par exemple, la prière et d'avoir quelques manquements, plutôt que de ne pas le faire et d'être vraiment au point avec tout le monde en termes de comportement. Cela dit, la chose ne pourrait pas aller jusqu'à rendre licite un certain nombre de faits. Nous avons des gens qui vont faire leur umrah deux fois par an, qui chaque année iront jusqu'à donner des pots de vin pour avoir un passeport pour le pèlerinage et aller faire un pèlerinage sur la base d'une action illicite, haram. Et ces gens-là vont, comme nous avons déjà cité une anecdote, hein, le type, on lui ramène un pot de vin, rachoua, et il dit, attends, mais non, mais attends, je peux pas toucher ça, je viens de faire mes ablutions, attends, j'appelle mon fils. Il appelle, il sonne à sa porte, il y a son fils qui sort, il lui dit, prends cet argent et mets-le dans l'armoire, j'arrive. Nous sommes là dans un folklore qui fait la religion actuellement. Est-ce que c'est valable? Non, ça n'est pas valable. Est-ce que nous sommes censés interdire à ces gens-là d'approcher nos mosquées? Non, nous ne pouvons pas le faire, parce que les mosquées appartiennent à Dieu. Et parce que le culte en lui-même, il appartient à Dieu. Mais cela ne nous empêchera jamais de dire à ces gens-là, vous êtes en infraction vis-à-vis de Dieu, il va falloir vous réformer. Et quand chacun d'entre nous est dans une forme de manquement, à quelque degré que ce soit, il devrait s'adresser à sa propre personne ce même conseil. Il faut te réformer.
Kamashakat, alors entre l'exemple que vous venez de mentionner, donc cette personne qui prend la rachoua, qui est ou corrompu ou corrupteur, ou l'exemple du compagnon du prophète, alayhissalam, qui était donc un buveur invétéré, à oui. Chaque fois qu'il consommait de l'alcool, oui. Il venait témoigner de son attitude devant le prophète, alayhissalam. Quelqu'un avait proposé d'en finir avec lui, de couper, de trancher sa tête. Il leur disait, non, cette personne aime Dieu et son
oui,
prophète.
Oui, l'un d'eux l'a maudit, le messager de Dieu. On rapporte aussi des faits similaires de Omar ibn Khattab qui a eu vent d'une personne jugée d'une bonne moralité, qui connaissait quelques manquements, quelques déviations, en l'occurrence le fait d'être devenu un buveur invétéré, etc. Il lui a tout simplement envoyé une lettre. Il lui a envoyé une lettre lui rappelant que c'était quand même une personne d'un certain rang, une personne vertueuse à la base, qu'il était bien et qu'il serait bon qu'il opère un retour vers Dieu. Et la personne en question s'est repentie à Dieu et comme on le dit bien en arabe, « وَحَسُنَ إِسْلَامُ » Donc sa foi, il l'avait blanchie tout simplement. Et ceci nous enseigne que nous ne devons en aucun cas nous porter juste sur les gens. Nous devons rester dans la logique des prophètes de Dieu et de ses envoyés qui sont venus pour essayer d'accompagner les gens vers le paradis et non vers l'enfer.
Donc c'est il faudra même éviter de critiquer ces personnes parce que nul n'est au courant de ce qui se passe dans le cœur, à la pureté du cœur.
Nous avons le droit de les critiquer. Le messager de Dieu, alayhi salatu wasalam, à plusieurs reprises, sur sa chair, disait « Ma balu aqwa min yaf'aluna kada wa kada » Que dire de gens qui font telle et telle chose? Donc nous avons le droit de dénoncer tout cela. Mais nous n'avons pas le droit de nous mettre à la place de Dieu quant à juger de la foi même de ces gens-là. C'est ça le problème. Vous savez, quand on parle justement de l'importance de la prière et de tout ce qui devrait l'accompagner, parce que Quand vous parlez de la prière, vous ne parlez pas tout simplement d'une obligation religieuse, vous parlez d'une charte. Vous avez la prière et tout ce qui doit l'accompagner, avant, après, et pendant les prières du quotidien, pendant les deux prières de la semaine, qui sont les deux vendredis, qui font office de fête religieuse chez les musulmans. Vous savez, il y a une question qui va revenir chez les grands juristes de l'islam. Ceux qui ne prient pas, est-ce qu'on peut les taxer d'être des infidèles, kuffar?
C'est fort.
C'est oui, mais pourtant c'est un problème qui a été débattu par les grands savants de cette nation. Il est clair que quiconque dénigre la prière, la rejette, la réfute, comme on dit, yatrukuha juhudan, il est considéré comme kafir. Maintenant, pour le reste, les grands imams de la nation. Vous prenez Abu Hanifa par exemple. Il est d'avis que quiconque ne pratique pas la prière, mais ne la dénigre pas, ne la rejette pas, ne la réfute pas en tant qu'obligation religieuse, est en infraction vis-à-vis de Dieu, et même s'il est tué, il est tué « haddan la kufran ». Ça veut dire qu'on va le punir par la peine capitale, non pas parce qu'il est infidèle, mais parce qu'il a délaissé la prière. Il y a des péchés qui nécessitent d'opérer une tauba, c'est-à-dire un repentir. Quand vous lisez Sourate al-Baqara, vous avez quatre versets qui vous parlent des croyants, c'est les premiers. Vous en avez autant qui vous parlent des infidèles, le kuffar. Ensuite, vous avez 18 versets qui vous parlent des hypocrites, qui en apparence sont de bons croyants, mais qui ne le sont pas. Et il est dit justement de ces hypocrites, inna al-munafiqin fi ad-darakil asfali minan nar, ils sont dans le bas-fond de l'enfer. Ça veut dire qu'ils sont doublement tourmentés par rapport aux infidèles. Ça veut dire qu'il y a en première position le croyant, il y a ensuite l'infidèle et qu'il y a quelqu'un qui est maudit, damné par Dieu subhanahu wa ta'ala, qui est l'hypocrite. Il faut bien se rendre compte de la gravité justement de ce statut de l'hypocrite. Maintenant, il faut prendre en considération une chose. Ici, en Algérie et dans le Maghreb de manière générale, nous avons été élevés dans une tradition. Je me souviens, dans les années 70 jusqu'aux années 80, certains parlent de sahwa, c'est-à-dire de l'éveil. On ne voyait dans nos mosquées que des gens quand même assez avancés en âge. Pourquoi ? Parce que la logique de cette génération voulait que l'on aille à la mosquée, que l'on commence à devenir assidu à la prière une fois que l'on s'est vraiment rangé, une fois que l'on s'est mis en tête que voilà, désormais, je vais devenir quelqu'un de bien. Je vais laisser de côté ma vie d'avant, tout ce que j'avais comme défaut pour me réformer, pour aller vers quelque chose qui plaît à Dieu.
Et si je n'atteignais pas cette réforme ?
C'est ça le problème. Et c'est ce que disaient bon nombre de savants à bon nombre de personnes. Et oui, Yachir, Nanouli, Inch'Allah, al-Slat, je ferai ma prière quand je serai un peu plus âgé, un peu plus assagi. Et si tu n'arrives pas justement, et si Dieu ne te prête pas vie jusqu'à ce moment qui te permette d'opérer justement ce retour vers Dieu ? Cette logique était plus ou moins bonne dans la mesure où, quand on voyait une personne dans la mosquée, c'était une personne bien. C'était un vecteur du bien. Et c'était vrai, de manière générale. Ensuite, nous avons été justement investis par des fatwas qui nous viennent essentiellement des pays du Golfe et qui veulent que, voilà, le clé de toute chose, c'est la prière. Ce qui n'est pas du tout faux. Alors, une personne qui ne fait pas sa prière, est-elle considérée comme infidèle ou pas en islam ? Vous savez, quand vous lisez tous les versets du Coran et quand vous passez en revue tous les hadiths liés au sujet, à hadith al-bab, vous allez vous rendre compte que ne pas faire la prière était vraiment un manquement plus que grave chez les premiers
musulmans.
Oui. Vous avez ce fameux hadith du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, où il parle énormément de la prière et de ce qu'elle vaut. Il dit « wa amuduhu salat », c'est-à-dire que le pilier, l'épine dorsale de cette religion, c'est la prière. Il revient sur bon nombre de hadiths, sur son importance, sur ce qui fait la distinction entre un musulman et un non-musulman. C'est justement l'observance de cette prière. Et c'est pourquoi les grands savants de l'islam se sont posés cette question. Celui qui ne pratique pas la prière, est-il considéré comme kafir ou pas ? Est-ce un infidèle ? Tout le monde est d'accord sur le fait, comme ils le disent eux-mêmes, « Man tarakaha juhudan, fahuwa kafirun bi ijma'a ».
Juhudan ?
Le juhud, c'est le fait de la nier carrément. Non, il n'y a pas de prière. je ne fais pas la prière parce que cette prière, elle n'a jamais existé, elle ne peut pas exister, elle ne peut pas être une obligation de Dieu, ou du moins je ne la reconnais pas comme obligation religieuse. هذا كافر انكر كما ندي معلوما من الدين بالضروره c'est l'un des points de la religion qui sont connus de tous qui sont admis donc il n'y a pas lieu de les rejeter
qui existe même dans les autres traditions monothéistes
absolument absolument et donc Abu Hanifa a dit que quiconque l'a délaissé par manquement par laxisme tahawunan par exemple la yakfur ce n'est pas un infidèle. Et il était d'avis qu'on devait, on appelle cela ta'zir, c'est-à-dire on devait procéder en ce qui le concerne à une punition quelle qu'elle soit, ne serait-ce que l'emprisonner jusqu'à ce qu'il revienne vers la prière. L'imam Malik et l'imam Shafi'i, paix à leur âme, sont aussi d'avis que quiconque délaisse la prière sans pour autant la renier n'est pas un mécréant, mais qu'il était passible de la peine capitale tant qu'il ne la pratiquait pas. Et là, il faut faire la différence entre, en ce qui concerne ces imams, entre le qatl haddan ou le qatl riddatan. Est-ce qu'on va procéder à la peine capitale en tant que mesure punitive ou bien pour apostasie? Eux sont d'avis que c'est tout simplement une mesure punitive. Là aussi, notons que le messager de Dieu, alayhi salatu wasalam, n'a jamais fait cela. Même dans des cas d'apostasie, on n'a jamais tué quelqu'un. L'imam Ahmed ibn Hanbal est d'avis que quiconque ne pratique pas sa prière se met dans une position d'infidèle et est passible de la peine capitale, tant qu'il ne revient pas à la prière. Bien sûr, ce sont là des avis des grands imams. Ce sont aussi des avis, bon, chacun va défendre son avis à coup d'arguments. Vous prenez des hadiths, par exemple, « Bayn al-rajuli wa bayn al-kufri tarkus salat ». C'est un hadith authentique. من ترك الصلاة متعمدا برئت منه ذمة الله ورسوله. Quiconque délaisse la prière sciemment s'est mis hors de la protection de Dieu subhanahu wa ta'ala et de son prophète. العهد الذي بيننا وبينهم, ce qui fait office de pacte entre nous croyants et eux, c'est-à-dire les incroyants, c'est la prière. فمن تركها فقد كفر. Carrément. Ce sont des hadiths sur lesquels vont revenir tous ces imams avec leur interprétation même de ces hadiths. C'est pour ça que les avis vont différer. À l'heure actuelle, nous n'avons d'autre choix que de revenir à ce qui a fait usage lors de la période prophétique et après. Et nous avons déjà parlé de l'apostasie. Nous avons des gens qui quittaient carrément l'islam, qui reniaient l'islam, mais qui n'ont pas pour autant été poursuivis par qui que ce soit, ni de la part du messager de Dieu, alayhi salatu wasalam, ni de la part de ces califes éclairés. La chose s'est produite à l'époque du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et à l'époque des quatre califes éclairés, qui font office de référence et de référent pour nous, les musulmans. Donc, à partir de là, moi, ce qui m'intéresse dans tout cela, c'est que, d'une part, il n'y a plus lieu de parler d'exécution pour une personne qui ne pratique pas la prière, surtout à l'heure actuelle, à un moment où tout s'en mêle et s'entremêle, le bien et le mal. Là, honnêtement, il n'y a plus lieu de parler de tout cela. Ce sont là des avis religieux qui étaient peut-être de mise à une période où les gens étaient dans une observance des lois de Dieu qui se faisaient vraiment dans le
summum de la foi.
Oui, dans l'absolu, mais là, franchement, il n'y a plus lieu de parler de tout cela. D'autant plus que nous avons, en termes de jurisprudence, l'usage qui était celui du messager de Dieu et de ces califes éclairés quant aux apostats, le murtaddin. Donc si nous pouvons mettre en pratique cela pour l'apostasie, nous devrions autant le faire pour le fait de ne pas faire sa prière. Moi, pourquoi est-ce que je vous ai cité ces avis qui ne sont plus de mise en ce qui me concerne? Oui. Je parle pour moi-même. Si vous poussez le sujet à fond, elle est valable dans la mesure où ces gens-là ont des textes sur lesquels
valable,
ils vont
s'appuyer. Valable mais applicable à notre ère?
Franchement, non. C'est comme, par exemple, ceux qui parlent de l'hajr, c'est-à-dire le fait de mettre en quarantaine quelqu'un qui fait une innovation, quelqu'un qui est en infraction vis-à-vis de Dieu. C'était peut-être de mise à l'époque des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pour la majorité des savants, ça ne l'était plus après eux. Parce que la vie a changé, parce que la moralité a dégringolé, si on peut utiliser ce
terme. Donc il faut faire cas des contingences du temps, Kamal Chakat, c'est
important. Absolument, mm-hmm. Ça a toujours.
C'est décisif pour lancer une fatwa.
Oui, d'ailleurs même dans l'école malé malikite, nous avons un principe qui s'appelle Majara Bihil Amal. Sur le plan, on ne parle pas des actes cultuels, hein. Nous parlons de ce que nous appelons le Mu'amalat. On prend en considération les mutations en termes de comportement que connaissent les sociétés. Mais pourquoi est-ce que je vous ai cité ces avis-là? Remarquez que Abu Hanifa ou bien l'imam Malik ou bien Shafi'i sont d'avis que quiconque ne pratique pas la prière n'est pas un kafir, n'est pas un infidèle, mais mérite quand même d'être puni. Le problème, en ce qui me concerne, est dans l'avis de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Il est considéré comme kafir, carrément considéré comme kafir. Et là, ça a donné naissance à une manière d'opérer en termes de religion qui a faussé le jeu. Parce que si vous allez dans les pays du Golfe, par exemple l'Arabie Saoudite, ou les avis qui nous viennent justement de cette école du Hijaz. Oui, quiconque ne pratique pas la prière, c'est un kafir. Mais quiconque va pratiquer la prière et s'adonne à la rechoua ou bien est pédophile, c'est un mauvais musulman. Il n'y a pas de problème ici. On ne peut pas allier bonne et mauvaise action en même temps. Ça
prendre
n'est pas
la
possible.
Main à
oui,
Dieu
adieu au diable.
Comme dirait Ibn Qayyim.
Moi, j'ai l'habitude de dire de serrer la main à Dieu et à Satan, subhanallah al-adhim.
Ça devient un exercice très difficile pour les ulémas aujourd'hui.
Oui, et à partir de là, dans la mouvance dite salafiste, et là, attention, il faut faire aussi très très attention, est-ce que nous parlons du salafisme de manière générale, est-ce que nous parlons de cette tendance appelée le matraliya, est-ce que nous parlons de cette tendance appelée salafiste
djihadiya
qui va tuer tout le monde, qui va tuer, décapiter les gens au moindre prétexte, ah oui, parce qu'il ne pratique pas la prière, parce qu'il n'est pas d'accord sur le fait de couper la main à un voleur, alors que nous sommes dans des sociétés qui sont dans des états économiques lamentables. Il est là le problème, c'est que la vision que vous avez du culte et la vision que vous avez de l'observance de toute la charte qui doit englober ce culte va être déterminante dans votre manière d'être musulmane ou croyante. Est-ce que vous partez dans une logique du tout qui veut tout réformer en même temps, même si ça doit prendre du temps, ou est-ce que vous allez vous dire, bon, l'important c'est que moi, c'est que je fasse ma prière. Le reste, Inch'Allah, ça viendra avec le temps. Non, ça ne marche pas comme ça. Je me repens à Dieu et j'essaye d'être aussi conforme que possible à ce que Dieu veut.
Donc c'est une mujahada continue.
C'est pour cela qu'il y a 5 prières. On aurait pu prier une seule prière par jour, mais le fait d'en avoir 5, c'est là autant de haltes au quotidien qui vous permettent d'opérer ce retour à Dieu. Vous faites votre prière de soba. Ensuite, vous vous retrouvez entre les mains de Dieu, comme on dit en arabe, bayna yadayillah, pour accomplir une autre prière. Et vous revient en mémoire tous les manquements que vous avez commis entre ces deux prières. Cela ne vous pousserait-il pas à manifester quelque pudeur vis-à-vis de Dieu? Si. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de bonnes choses quant à espacer justement ces prières et à prendre conscience justement de ces moments, de ces rendez-vous avec Dieu qui vous permettent justement de vous tirer, entre guillemets, du châtiment de Dieu le jour de la résurrection. Nous avons cité les avis des 4 principaux imams quant à celui qui délaisse la prière. Est-il infidèle ou pas? Nous avons expliqué que ce sont là des avis qui ne sont plus de mise à l'heure actuelle, même si vous pensez que quelqu'un qui ne fait pas la prière est un infidèle, vous n'avez pas le droit d'aller le lui dire à l'heure actuelle. Parce que ça n'est pas dans l'ordre des priorités actuelles. Nous sommes dans des manquements qui sont plus graves que cela. Mais de là aussi à aller dire aux gens, faites votre prière, quitte à ce que vous fassiez les 400 coups au quotidien, ça non plus, ça ne passe pas. Ou on est croyant, ou on l'est pas. Ou on est musulman, ou on l'est pas. Il n'y a pas avec la relation qui devrait nous lier à Dieu de demi-mesure. Il faut comprendre les choses comme ça. Et c'est pour cela que nous avons cité ces avis. Et nous les avons cités pour montrer que certaines de ces fatwas peuvent être à la base de déviations terribles. Oui, celui qui ne pratique pas la prière, c'est un kafir. Et celui qui la pratique, ça n'est pas un kafir, même s'il fait l'œuvre de Pharaon. Je suis désolé, ça ne marche pas comme ça.
Je vous remercie Kamal Chakat, merci à tous ceux qui étaient de la partie. Alors notre rendez-vous se renouvelle tous les vendredis à 5h et à 14h sur Radio Algérien 3, mais également sur x.com, sur la page Au cœur de l'Islam, chaîne 3. Merci à tous et bon week-end, au revoir.